de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministre des Finances déclare que la République d'Indonésie renforce la coopération avec la NASA en surmontant les défis post-pandémiques. Les droits des personnes handicapées sont l'un des axes de la coopération ASEAN-États-Unis cette année. La Turquie apprécie les efforts de l'aide qui afflue du monde entier à la suite du tremblement de terre. L'Indonésie condamne la légalisation des implantations juives en Cisjordanie. La Chine recueillera le logo d'une mission spatiale habitée en 2023. Bon, chers auditeurs, voici le journal incomplet. Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le gouvernement indonésien continuera de s'efforcer de renforcer la coopération dans la région de l'ASEAN pour surmonter les défis régionaux et mondiaux au milieu des conditions de reprise mondiale post-pandémique. Le ministre Sri Mulyani, dans une interview avec Nikkei Asia, cité dans un communiqué officiel à Jakarta mercredi, mentionnait que le renforcement a été réalisé sous la présidence de l'Indonésie au Forum de la NASA. Sur le canal financier, l'Indonésie a mené trois initiatives, à savoir liées à la reprise et reconstruction, économique numérique et durabilité. Avec cette initiative, l'Indonésie a participé à encourager la transition du secteur financier pour soutenir la durabilité de la mise en œuvre de l'économie verte. Sous la présidence de l'Indonésie, l'ASEAN continuera à s'efforcer de devenir une région qui est stable, forte, inclusive, ainsi qu'une source de croissance économique mondiale durable. Garantir et promouvoir les droits des personnes handicapées est l'un des axes de la coopération entre les États-Unis et les pays de l'ASEAN cette année, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ASEAN, Johannes Abraham. Dans talk show Institutionalizing the Accessibility Reforming from the Inside à Jakarta mardi, l'ambassadeur Abraham a déclaré que le gouvernement américain travaillerait ensemble en tant que partenaire de l'ASEAN, en particulier avec l'Indonésie, pour lancer un dialogue sur le handicap et soutenir les efforts de l'ASEAN pour vulgariser les droits des personnes handicapées. En 2021, le président américain Joe Biden a signé un décret exécutif sur la diversité, l'égalité, l'inclusion et l'accessibilité dans les bureaux fédéraux qui aident les agences fédérales à devenir des lieux de travail exemplaires qui garantissent que les opportunités sont ouvertes et accessibles à toutes les personnes, y compris les personnes handicapées. La Turquie remercie tous les pays pour l'aide qu'ils ont apportée aux efforts de recherche et de sauvetage et à l'assistance après le double tremblement de terre, a déclaré mardi le président Recep Tayyip Erdogan. Dans un message vidéo envoyé au sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le dirigeant turc a déclaré que les équipes avaient retiré plus de 8000 personnes du séisme depuis qu'un fort tremblement de terre a frappé la Turquie du Sud la semaine dernière. Il a également déclaré que plus de 81 000 personnes blessées par tremblement de terre avaient quitté l'hôpital. L'Indonésie a critiqué la décision d'Israël de légaliser les colonies juives en Cisjordanie. Cela a été transmis par le ministère indonésien des Affaires étrangères via Twitter mercredi. Selon le ministère indonésien des Affaires étrangères, cette décision viole le droit international et les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Cette décision est également considérée comme déclenchant l'instabilité dans la région. L'Indonésie invite la communauté internationale à s'unir et exhorte Israël à cesser ses activités. Israël a annoncé la création de 9 avant-postes en Cisjordanie qui sont illégaux au regard du droit international parce qu'ils se trouvent dans le territoire occupé. Dimanche, le premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé la création de ses postes à Avigail, Beit Ogla, Givat Harel, Givat Arnon, Mitzvah Yehuda, Malachi HaShalom, Asahel, Sede Boaz et Sacharit. La création de ces postes aurait été une réponse à une série de terreurs perpétrées par des militants palestiniens à Jérusalem-Est. En outre, dans son annonce, Netanyahu a déclaré que le gouvernement autoriserait la construction de colonies en Cisjordanie dans les prochains jours. L'agence spatiale chinoise habitée, ou China Manned Space Agency, ou abrégé en CMSA, a commencé mercredi à collecter des logos pour les prochaines missions spatiales habitées de la Chine, la première soumission ouverte de logos de son programme spatial habité. L'événement vise à collecter les logos des 3 missions spatiales habitées de la Chine cette année, à savoir le lancement du faisceau spatial cargo Tianzhou 6 et de faisceaux spatiaux habités Shenzhou 16 et Shenzhou 17, selon une annonce concernant l'événement publié par la CMSA. Depuis le vol spatial habité Shenzhou 5 en 2003, un logo a été conçu pour chaque mission habitée chinoise, en particulier 12 logos de mission pendant la phase de construction de la station spatiale chinoise. La collection de logos cette fois, qui dure jusqu'au 6 mars, est ouverte à toutes les personnes enthousiastes du programme spatial habité de la Chine. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « Célébrant 65 ans des relations entre l'Indonésie et le Japon », le consulat général d'Indonésie à Osaka a organisé une performance artistique. Le consulat général de la République d'Indonésie à Osaka et le gouvernement de la ville de Sakai à Osaka ont organisé un spectacle d'art culturel pour commémorer 65 ans des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon. Le spectacle d'art culturel avait pour thème « Touchons la culture indonésienne » et s'est tenu pour la première fois dans la ville de Sakai. La performance culturelle indonésienne a débuté une série d'activités pour célébrer les 65 ans des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon en 2023 pour la zone de travail du consulat général d'Indonésie à Osaka. Le consul général d'Indonésie à Osaka, Diana Sutikno, selon un communiqué du consulat général d'Indonésie à Osaka, a espéré lundi qu'à travers cette performance artistique, les habitants de Sakai et de ses environs seront intéressés à visiter l'Indonésie après avoir regardé des performances de wayang et danse balinaise. Dans cette performance artistique, le spectacle de marionnettes d'ombre balinais a été interprété par le marionnettiste Umeda Idearu, un artiste ainsi qu'un universitaire culturel balinais qui est également doyen de la faculté de la politique et de la gestion culturelle de l'Université des arts et de la culture de Shizuoka, SUAC. En plus des performances culturelles indonésiennes, il y avait aussi une performance de battement de tambour japonais Taiko par le groupe Sakaiko Yodaiko. Ce groupe a été fondé dans la ville de Sakai et actif dans diverses activités socio-culturelles dans la région. Le consulat général d'Indonésie à Osaka a déclaré que la ville de Sakai est la deuxième plus grande ville de la préfecture d'Osaka avec une population de plus de 800 000 personnes. Cette grande ville portuaire sur la baie d'Osaka a une histoire de milliers d'années. Actuellement, la ville de Sakai est le siège de nombreuses industries textiles et métallurgiques. La ville est également connue pour son artisanat coutelier et son industrie du vélo. Shimano, un fabricant bien connu d'accessoires pour vélo, a son siège en ville de Sakai. La ville de Sakai sert également de ville tampon pour la ville d'Osaka. Par conséquent, la ville de Sakai est considérée comme jouant un rôle important en tant que partenaire du consulat indonésien à Osaka dans la promotion de l'Indonésie. C'est Zerita, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. C'est Zerita, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 février 1946. Le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU a été utilisé pour la première fois. Le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU a été utilisé pour la première fois par l'Union soviétique le 16 février 1946 pour s'opposer à la proposition de retraite des troupes étrangères de la Syrie et du Liban. Le veto du Conseil de sécurité de l'ONU appartient désormais à cinq pays, à savoir les États-Unis, la Russie, qui faisait auparavant partie de l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Les droits de veto ont été donnés à cinq pays car ils étaient considérés comme des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les droits de veto étaient souvent utilisés en fonction des intérêts de chaque pays possédant des droits de veto. Passons maintenant à l'événement du 16 février 1998, l'avion de China Airlines s'écrase. Le vol 676 de China Airlines s'est écrasé sur une route et une zone résidentielle près de l'aéroport international de Chiang Kai-shek, dans le comté de Taoyuan à Taïwan, le 16 février 1998. L'Airbus A300-622R volé de l'aéroport international Ngurah Rai de Bali, Indonésie, à Taipei, à Taïwan. Le temps était dominé par la pluie et le brouillard lorsque l'avion s'est approché de la piste de l'aéroport international de Chiang Kai-shek, de sorte que le pilote a fait une mauvaise approche de la piste. L'avion s'est écrasé et a tué les 196 personnes à bord, dont le président de la Banque centrale de Taïwan. L'accident a également tué 7 personnes au sol, portant le nombre total de morts à 203 personnes. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 février 2005, le protocole de Kyoto est entré en vigueur. Le protocole de Kyoto est un amendement à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, CCNUCC, un accord international sur le réchauffement climatique. Les pays qui ratifient ce protocole s'engagent à réduire l'émission, l'élimination du dioxyde de carbone et de 5 autres gaz à effet de serre. Cet accord est entré en vigueur le 16 février 2005. À ce jour, 181 pays plus l'Union européenne ont ratifié le protocole de Kyoto. S'il est adopté avec succès, le protocole de Kyoto devrait réduire le temps moyen mondial entre 0,02 degrés Celsius et 0,28 degrés Celsius en 2050. Ces auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Pertama kali bertemu, terasa ada yang mengganggu. Ternyata kau coba curi hatiku. Kedua kali berjumpa, semua makin berbeda. Tiba-tiba kau nyatakan cinta. Ku harus bagaimana? Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Bukti hanya ucapan, ku beri kesempatan untuk buktikan, ku harus bagaimana? Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan
Chajolitar, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, la ministre de l'Environnement et des Forêts a déclaré que le gouvernement augmentera la capacité des usines de l'environnement. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nourbaya, a déclaré que le gouvernement continue d'encourager pour une augmentation de la capacité des juges environnementaux à renforcer l'application de la loi afin qu'elle fonctionne bien, étant donné que la dynamique du droit de l'environnement évolue rapidement. Dans sa déclaration du mardi 14 février dernier, Siti Nourbaya a déclaré que les questions environnementales ont des caractéristiques complexes et rigoureuses de preuves scientifiques, de sorte que certaines étapes et connaissances sont nécessaires devant le juge qui les juge. Le 12 février 2023, la ministre Siti Nourbaya a tenu une audience avec le juge en chef de la Cour suprême, Sharifuddin, à Jakarta. La réunion devait répondre à la dynamique rapide du droit de l'environnement. Depuis 2011, la Cour suprême a mis en place un système de certification des juges environnementaux afin que les affaires environnementales puissent être traitées par des juges possédant les connaissances, la compréhension et les compétences capables. La ministre Siti Nourbaya et le juge en chef de la Cour suprême, Sharifuddin, ont le même point de vue sur la réapplication de la certification des juges de l'environnement. L'éducation et la formation pour la certification des juges environnementaux sont importants pour accroître l'efficacité du traitement des affaires environnementales dans la réalisation d'un sens de la justice. En plus de la certification, ils ont également évalué que les juges devaient régulièrement mettre à jour les développements sur l'environnement dans le but que les juges comprennent et soient en mesure de se tenir au courant des derniers problèmes environnementaux. Siti Nourbaya a déclaré que l'étape de certification des juges de l'environnement nécessitait environ 80 personnes par an. Pour l'application opérationnelle de la loi, un nombre suffisant des juges environnementaux est nécessaire. La ministre Siti a déclaré que le gouvernement indonésien mène actuellement une campagne intensive pour un programme de réduction des émissions de carbone par le biais du Follow Net 5 2030. Ainsi, les règles et l'application de la loi sont strictes. Le juge en chef de la Cour suprême, Sharifuddin, a déclaré que sa partie s'est félicitée de la tenue d'un atelier de suivi pour les juges de l'environnement en rapport avec les derniers développements dont les juges doivent également les connaître. Jusqu'à présent, il y a 1417 anciens juges de certification environnementale répartis dans les institutions judiciaires de toute l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
cepat dan tak kurasa.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs, le ministre du Tourisme et de la Commune Créative, Sandiaga Uno, a visité le 9 février le palais Amantobilla, situé dans le district de Mempawah, dans le Kalimantan Occidental. Il a dit que le palais est une destination du tourisme culturel. Le nom Amantobilla est d'origine arabe, ce qui signifie « Je crois Allah ». Le palais, dominé par le bleu clair, se dresse fermement dans le village de Pulau Dalaman, le district de Mempawah Oriental, Kalimantan Occidental. Ce palais était construit sous le règne de Gusti Jamiril qui portait le titre de Panembahan Adiwijaya Kusuma de 1761 à 1787. Gusti était le troisième sultan du sultanat de Mempawah. Chers auditeurs, si vous visitez cette zone du palais, vous serez accueillis par la porte du palais sur laquelle on peut lire « Mempawah harus maju, maju dengan adat ». Ce qui signifie en français « Mempawah doit avancer, honte à la tradition ». Ensuite, vous verrez une cour avec de l'herbe verte et des canons. Le complexe du palais Amantobilla est divisé en trois parties principales, à savoir le bâtiment principal, l'aile droite et l'aile gauche. De plus, le bâtiment de l'aile gauche servait également de salle où le roi rencontrait ses courtisans. Les trois bâtiments ont maintenant changé de fonction, comme le bâtiment principal qui a maintenant été converti en musée du royaume de Mempawah, qui abrite diverses reliques royales, telles que le trône du roi, les vêtements royaux et les parapluies royaux. Ce bâtiment stocke également des photographies des rois qui régnaient autrefois dans ce palais et de leur famille. Pendant ce temps, le bâtiment de l'aile droite sert actuellement de pavillon pour le palais et le bâtiment de l'aile gauche est actuellement utilisé comme résidence des parents du royaume de Mempawah. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku.
Kita bisa apa berlari ku mengejar dirimu, bermimpi untuk mendapatkan cintamu selalu dan takkan pernah terganti. Melihat kau begitu sempurna membuat kini ku makin terpikat. Tuhan ingin kau jadi tangitku. Kita bisa apa? Oh, 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 oh. Kita bisa apa? Mengejar dirimu, bermimpi untuk mendapatkan cintamu selalu dan takkan pernah terganti. Melihat kau begitu sempurna membuat kini ku makin terpikat. Oh, oh, kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau menjadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, berlari-lari mencari, oh, 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 semua cinta yang engkau mahu. Oh, kau tahu cintaku semua cintamu. Kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa ingin kau jadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, 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 oh. Kita bisa apa? Oh, oh, kita bisa apa? Kita bisa apa? Oh, oh, kita bisa apa?
Voice of Indonesia.
Jauh
Serge Litard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique d'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons vous présenter la lie de tofu devient un substitut de la styromousse. Une fière a récemment été réalisée par des étudiants indonésiens. Pour leur innovation, quatre étudiants de l'école intermédiaire publique 1 Denpasar, Bali, ils sont Gusti Ayudhya Prabaswari, Gus Dega Satria Vineskananda, Gendis Ginanti, et Dalam Kastara Vinayagar, ont remporté des médailles d'or à l'exposition internationale de Bangkok sur la propriété intellectuelle, l'invention, l'innovation et la technologie lors de la Journée des inventeurs thaïlandais 2023. Le prix a été obtenu après avoir éliminé des participants d'environ 30 pays à travers le monde. Ils ont également remporté un prix spécial du ministère malaisien de l'éducation du 2 au 6 février 2023. Ils ont remporté le prix pour leur innovation dans la transformation de la lie de tofu et des coques de cacao en biomousse ou en substitut de polystyrène. Ces quatre étudiants cherchent une alternative à l'utilisation de la styromousse parce qu'elle est dangereuse pour l'environnement et la santé. La styromousse contient également des causes de cancer chez l'homme. Selon Gusti Dia Prabaswari, l'alternative est la biomousse à partir de restes de tofu et de coque de cacao. Dia et trois de ses amis ont choisi la lie de tofu comme biomousse parce que les gens les jettent souvent dans la rivière. Il n'est pas rare que les restes de tofu jetés pendant des jours dégagent une odeur désagréable qui pollue l'air. De même, les coques de cacao ne sont pas utilisées et ne deviennent que des déchets. Elles les maximisent pour fabriquer de la biomousse. Cette innovation est également bonne pour l'environnement. Le produit Biofoam développé à la forme d'une petite plaque brunâtre avec une texture dense. Pour produire un morceau de biomousse, il faut 50 g de lie de tofu, 30 g de la coque de cacao et quelques fluides chimiques. Pendant ce temps, la biomousse à base de lie de tofu et de coque de cacao possède une texture ferme. La biomousse fabriquée à partir de restes de tofu et de coque de cacao peut être utilisée comme récipient alimentaire. À l'avenir, ils ont l'intention de développer le produit Biofoam dans des bols et des cuillères. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Terjatuh hujan mentari. silih berganti. Ku ingat selalu senyummu, walau kenangan bersamamu kan pudar. Sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so.
Memohon pada bintang benderang, selalu kulakukan setiap malam. Seberkas cahaya di cakrawala mencarimu dengan
lupakan pergi denganku, lupakanlah ragu denganku. Oh, 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 aku, aku,
aku ingin dirimu.
Aku untuk cantikmu itu aku.
Georges Letard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Hidupku bersamamu.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.